installez-vous confortablement, c'est l'heure de C'est moi qui lis. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est moi qui lis, la chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir un livre unique et magnifique. Chaque lundi, mercredi et vendredi soir, je vous partagerai un livre qui m'a touchée, surprise, choquée. Je vous en dirai bien sûr un peu plus sur l'auteur ou l'autrice, sur le processus d'écriture du livre, et je vous en lirai un passage. Ce soir, je vous parle de Luis Sepúlveda. Chronique en son honneur, il est malheureusement décédé le 16 avril dernier. Après l'Espagne et le Brésil, partons maintenant au Chili. Luis Sepúlveda Calfocora y est né le 4 octobre 1949. Il commence très jeune à militer dans les jeunesses communistes et lorsqu'il est étudiant, il échappe à la peine de mort et est condamné à 28 ans de prison. Il est notamment accusé de trahison de la patrie sous la dictature chilienne d'Augusto Pinochet. Il est libéré en 1977 grâce à Amnesty International et est condamné à 8 ans d'exil en Suède. Il a travaillé avec Greenpeace et milite avec la Fédération internationale des droits de l'homme. Luis Sepúlveda, en plus d'être auteur, a également travaillé en tant que scénariste, auteur et réalisateur. Son premier roman, Le vieux qui lisait des histoires d'amour, est également le livre qu'il a fait connaître du grand public. Traduit en 53 langues, publié dans 52 pays, il est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Personnellement, j'ai connu Luis Sepúlveda avec le livre Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, que j'ai lu au collège. Alors en quelques mots, c'est une mouette qui s'est prise dans une marée noire qui s'échoue sur un balcon à Hambourg. Un chat s'approche d'elle et finit par lui faire la promesse de s'occuper de son œuf et surtout qu'il apprendra au poussin à voler. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous le conseille vraiment. C'est un livre touchant et assez drôle. D'ailleurs, le sous-titre « Un roman pour les jeunes de 8 à 88 ans » lui correspond plutôt bien, même s'il conviendra parfaitement à quelqu'un de 90 ans. Dans cette chronique, j'essaye au maximum de mettre en avant des livres peut-être un petit peu moins connus du grand public. Et c'est pour ça que ce soir, je vous propose de découvrir « Le monde du bout du monde ». On en parle juste après le titre « Desaparecido » de Manu Chao.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Me
dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Vous écoutez toujours C'est moi qui lis sur le 101.fm. C'était le titre Desaparecido de Manu Chao. Dans Le monde du bout du monde de Luis Sepúlveda, un jeune chilien de 16 ans se retrouve passionné par la mer et les baleines après avoir lu Moby Dick et il effectue un voyage dans le sud de son pays, la Terre de Feu. Bien plus tard, alors qu'il est journaliste à Hambourg et qu'il travaille pour des associations de protection d'animaux, il revient au Chili mener une enquête. Celle d'un baleinier japonais qui a fait naufrage. Ce retour au pays le transformera à jamais. Le monde du bout du monde. Première partie, chapitre 1, page 11. Appelez-moi Ismaël, appelez-moi Ismaël. Je ne cessais de me répéter cette phrase en attendant dans l'aéroport de Hambourg et je sentais qu'une force extraordinaire rendait mon mince billet d'avion plus lourd, toujours plus lourd à mesure que l'heure du départ approchait. J'avais passé le premier contrôle et j'arpentais la salle d'embarquement, accrochée à mon sac de voyage. Je ne l'avais pas rempli exagérément. Un appareil photo, un carnet de notes, et un livre de Bruce Chatwin, en Patagonie. J'ai toujours détesté les gens qui soulignent ou mettent des annotations dans les livres. Mais dans celui-là, mots soulignés et points d'exclamation s'étaient accumulés au bout de 3 lectures. Et je comptais le lire une 4e fois pendant le vol Hambourg-Santiago du Chili. J'avais toujours voulu retourner au Chili. Oui, je le voulais vraiment. Mais au moment de la décision, la peur l'emportait. Et le désir de retrouver mon frère et les amis que j'ai là-bas était devenu une promesse en laquelle je croyais de moins en moins à force de l'avoir trop répétée. J'avais passé trop d'années à vagabonder sans but précis et, parfois, l'envie de m'arrêter me conseillait un petit village de pêcheurs en Crète, Hiera Petra, ou une paisible bourgade asturienne, Villa Viciosa. Et puis, un jour, le livre de Chatwin m'était tombé dans les mains. Et voilà qu'il m'avait rendu à un monde que je croyais avoir oublié et qui m'attendait toujours. Le monde du bout du monde. Quand j'avais lu pour la première fois le livre de Chatwin, j'avais été pris de la nostalgie du retour. Mais la Patagonie était trop loin des simples désirs. Et les distances ne font souffrir que lorsqu'elles sont associées à des souvenirs. Aéroport de Hambourg. Les voyageurs entraient et sortaient de la boutique hors taxe, occupaient le bar. Certains avaient l'air nerveux. Ils regardaient leur montre comme s'ils doutaient de l'exactitude répétée sur des douzaines d'horloges électroniques. Le moment approchait où les portes allaient s'ouvrir et où, après le contrôle des cartes d'embarquement, un bus allait nous mener à l'avion. Je pensais qu'après 24 ans d'absence, je revenais au monde du bout du monde.
Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor.
Chapitre 2.
Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
J'étais très jeune alors, presque un enfant, et je rêvais aux aventures qui m'ouvriraient la voie d'une vie loin de l'ennui et de l'abrutissement. Je n'étais pas seule dans mes rêves. J'avais un oncle. Oui, un oncle avec une majuscule. Mon oncle Pépé, dont le caractère tenait davantage de ma grand-mère basque, l'indomptable, que de mon grand-père andalou, le pessimiste. Mon oncle Pépé, volontaire dans les brigades internationales pendant la guerre civile espagnole. Une photo qui le représentait à côté d'Ernest Hemingway était l'unique patrimoine dont il s'enorgueillissait, et il ne cessait de me répéter qu'il fallait trouver le chemin et se mettre en route. Faut-il ajouter que l'oncle Pépé était la brebis galeuse de la famille et que plus je grandissais, plus nos rencontres se faisaient clandestines? C'est de lui que j'ai reçu mes premiers livres, ceux qui m'ont fait connaître des écrivains que je n'oublierai jamais. Jules Verne, Emilio Salgari, Jack London. C'est de lui que j'ai reçu une histoire qui a marqué ma vie. Moby Dick, d'Herman Melville. J'ai lu ce livre à 14 ans et, à 16, je n'ai pu résister davantage à l'appel du Sud. Au Chili, les vacances d'été durent de la mi-décembre à la mi-mars. D'autres lectures m'avaient appris que de petites flottes de baleiniers mouillaient aux confins continentaux du cercle antarctique, et je brûlais d'impatience de connaître ces hommes que j'imaginais les héritiers du capitaine Achab. Convaincre mes parents de la nécessité de ce voyage n'a été possible que grâce au soutien de l'oncle Pépé, qui, de plus, m'a payé mon billet jusqu'à Puerto Montt. Les premiers mille et quelques kilomètres du voyage à la rencontre du monde du bout du monde, je les ai faits en train jusqu'à Puerto Montt. Là, face à la mer, les rails s'arrêtent brusquement. Après, le pays se morcelle en milliers d'îles, d'îlots, de canaux, de passes, jusqu'aux abords du pôle sud. Et, dans la partie continentale, les cordillères, les glaciers, les forêts impénétrables, les neiges éternelles, les lagunes, les fjords et les fleuves capricieux empêchent de tracer des routes ou des voies ferrées. À Puerto Montt, grâce à la recommandation de mon oncle bienfaiteur, j'ai été acceptée dans l'équipage d'un bateau qui embarque et débarque marchandises et passagers entre cette ville et Punta Arenas, la ville la plus australe du monde. Le capitaine de l'Étoile du Sud s'appelait Miroslav Brandovic, et c'était un descendant d'émigrés yougoslaves que mon oncle avait connu au cours de ses aventures en Espagne, puis dans les maquis français. Il m'a accepté à son bord en qualité d'aide-cuisinier, et nous avions à peine levé l'ancre que j'ai reçu un couteau aiguisé avec l'ordre d'éplucher un sac de pommes de terre.
Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si veas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de rico? Cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas.
Alors on notera ici bien sûr que le héros du livre et Luis Sepúlveda ont de nombreuses choses en commun. Tous deux se sont retrouvés en exil forcé, ils ont travaillé pour une association de défense des animaux. Luis Sepúlveda utilise donc bien sûr son histoire personnelle, mais également celle du Chili. Ce petit livre de 123 pages prend donc une dimension très réelle, notamment car il y est abordé le génocide en terre de feu. Les Indiens natifs ont été chassés par les Occidentaux pour venir s'installer. Après Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, j'avoue n'avoir lu aucun autre livre de Sepúlveda. Et quand j'ai appris qu'il était décédé, et surtout quand j'ai vu tous les hommages, j'ai eu envie de redécouvrir cet auteur. Et vu que je n'avais pas lu le résumé, je ne m'attendais pas à ça. Génocide, chasse à la baleine. Oui, je suis d'accord, ça fait beaucoup pour seulement 123 petites pages. Mais les descriptions des paysages sont extrêmement bien écrites, et si Luis Sepúlveda est capable de nous enchanter en quelques mots, il est également capable de nous rappeler sans leçon de morale, mais avec brutalité, notre réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce temps de confinement, j'ai envie de vous conseiller des livres qui vont vous faire voyager, vous toucher, mais comme je vous l'ai déjà dit, des livres qui vont également vous choquer. Et si on prenait le temps d'apprendre, de réfléchir et de se dire qu'une fois que nos vies reprendront, que le cours des choses reprendra, on n'oubliera pas et on pourra peut-être évoluer. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. C'était Marion avec la chronique C'est moi qui lis. Retrouvez-la en podcast sur le site internet de Radio U. On se retrouve vendredi avec Jack London, toujours sur le 101.1 FM. Et en attendant, amusez-vous bien!